bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Grand Ciel dans un nouveau numéro de Mission Jeune. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Rochelle, la ville où j'habite depuis 2009. Je commencerai donc par la situer, puis je présenterai son histoire, les lieux à visiter et la culture rochelaise. Et enfin, je donnerai ma vision de cette ville, présenterai certains lieux et je vous raconterai quelques anecdotes. La ville de La Rochelle se situe au sud-ouest de la France, plus précisément dans la région Nouvelle-Aquitaine, au nord-ouest du département de la Charente-Maritime. C'est une commune littorale située au centre de la côte atlantique. Elle possède une riche diversité de paysages, de côtes, par exemple ses côtes basses, très pratiques pour les inondations, ses côtes sablonneuses, mais surtout vaseuses, ses côtes de porc, ses côtes de bœuf et ses falaises. On y trouve des anses, de paniers ou littorales, des petits caps, sur l'aventure ou non, et des promontoires. Beaucoup de ces sites ont été arrangés pour les activités humaines et économiques. Trois petits ports, enfin plutôt grands, et il n'y a pas de petits cochons, ni trois petits chats. Il y a aussi des plages, trois plages. Quand on rentre dans le détail, on constate que la ville, elle se trouve face à l'île d'Oléron, au sud, et au sud-ouest et à l'ouest, face aux îles de Ré et d'Aix. La végétation locale est un mélange de végétation méditerranéenne et de végétation océanique ou continentale. Ce mélange est dû aux conditions climatiques suivantes, été sec et ensoleillé, hiver doux et humide. Ces conditions sont favorables aux activités nautiques, au tourisme et aux vacances. La tempête est le seul risque lié à ce climat. Deux catastrophes touchèrent principalement le département, la tempête Martin en décembre 1999 et la tempête Xynthia en février 2010. Dans les deux cas, la mer a provoqué des inondations. Bon, maintenant que vous savez où ça se situe, on peut passer à l'histoire de la ville. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de La Rochelle. Il était une fois un petit hameau qui s'appelait Cougne. Ce hameau a aujourd'hui donné son nom au quartier nord-est de la ville et à son église Notre-Dame de Cougne. Ensuite, au milieu des marais, sur un promontoire, fut créé un village de pêcheurs. Puis, à cause de nombreuses chartes, la ville s'appela en 961 Rupella, puis Rossella et Rochella, puis encore Reditum Rochellae en 1152. Enfin, en 1199, Aliénor d'Aquitaine, dans une charte, parla de La Rochelle. Heureusement qu'Aliénor est là, elle, pour départager tout ce petit monde. Amateurs de latin, ouvrez à présent grand vos oreilles. Les autres, bien, accrochez-vous bien et bon courage. Rupes est un mot latin qui veut dire roche. Il a été diminué au Moyen-Âge et désigné par le mot rupella. Au Moyen-Âge, les mots éclat de roche, château fort et roche était désigné par le mot Rochelle, issu de la langue d'oïl et dérivé du mot roche. Au VIe siècle, le mot latin roca voulait dire forteresse. Pendant le Moyen-Âge, personne ne parvint à se mettre d'accord pour traduire le mot roche. Ainsi, certains disaient rupes, d'autres roca ou roxa, d'autres encore rocha. Le terme roca posa beaucoup de problèmes aux spécialistes. Car, considéré comme un pré-latin, il ne figurait dans aucun dictionnaire gaulois. Mais alors, d'où vient ce roca? Il ne vient ni du celte contemporain, ni du breton, pas non plus des langues germaniques. Le mot anglais rock, de rock and roll, venant du normand, a été emprunté au français, comme le terme néerlandais rots. C'est bon? Vous suivez? Non? Ça tombe bien parce que la parenthèse étymologique est fermée. Mais l'histoire continue, car on retrouva de nombreux vestiges de nos amis les Romains. Et vers le Xe siècle, un village de pêcheurs au milieu des marécages. Au XIIe siècle, la ville grandit et devint un port assez important, ce qui amena notamment à la construction du château de Vauclair par les seigneurs de Rochefort et Moëlon. Le duc d'Aquitaine, Guillaume X, devint seigneur de La Rochelle par les armes en 1130. Il construisit des remparts tout autour de la ville et établit beaucoup de liberté à celle-ci. La petite ville devint rapidement le plus grand port sur l'Atlantique, grâce notamment à la présence des Templiers, aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et grâce au second mariage d'Aliénor d'Aquitaine, encore elle, en 1152. Aliénor, devenue reine d'Angleterre, La Rochelle passa donc des mains de Louis VII, roi de France et ex-mari de la duchesse, à celui d'Henri II, Plantagenet, roi d'Angleterre. Ensuite, en 1224, 1360 et 1371, La Rochelle servit de balle du ping-pong entre successivement la France, l'Angleterre, puis de nouveau la France. Même si en 1371, les Rochelais ont chassé les Anglais hors de leur domaine, ils attendent pour ouvrir les portes de la ville au royaume de France, que le roi ait confirmé leur droit au privilège, qui, par la suite, leur offrit une grande liberté. Ainsi, le maire et ses successeurs gagnèrent une noblesse héréditaire. La ville resta donc française et s'ensuivit une très longue période de prospérité. Au XVIe siècle, ayant déjà acquis l'indépendance territoriale, la ville finit par adopter l'indépendance religieuse, le protestantisme. Ainsi, la ville étant libre de 1590 à 1620, elle fut économiquement et culturellement épanouie. Mais cette fois, c'en était trop pour les têtes couronnées de l'époque. Ainsi, la ville subit deux sièges, celui dirigé par le frère de Charles IX en 1573, qui se termina par un compromis. Le second, lui, fut plus radical pour les Rochelais. Cette fois, pas de compromis possible, car le siège est conduit par Richelieu et celui-ci compte bien en finir avec cette ville qui menace l'unification qu'il prévoyait. Pendant ce temps, un homme s'illustra particulièrement, résista à l'envahisseur, Jean Guiton. D'abord armateur puis maire de la ville, le quadragénaire s'oppose en résistant aux troupes de Louis XIII et fit construire une digue de 1500 mètres pour protéger la ville de potentiels ennemis venus de la mer. Hélas, la digue barra l'arrivée des Anglais, alliés de la ville, qui fut forcé à capituler en 1628. Jean Guiton dut s'exiler. Après cette dure épreuve, la ville renaquit grâce au commerce maritime. De 1630 à 1635, des relations régulières avec la Nouvelle-France, le Canada, et les Antilles commencèrent. En 1694, La Rochelle se porte bien, car son commerce fleurit grâce notamment au sucre des Antilles, au commerce triangulaire et aux fourrures canadiennes. Dans le même temps, la ville connaît un rayonnement intellectuel et artistique. Cette dynamique continue jusqu'à la perte de deux destinations principales de l'exportation Rochelais, le Canada et la Louisiane. Cette perte eut lieu lors du traité de Paris en 1763. En 1890, la construction du port de la Palisse donne un nouveau départ à la ville après près d'un siècle de calme. Ensuite, le port servit de base sous-marine aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. La Rochelle fut la dernière ville de France à être libérée en 1945. Je vais à présent vous présenter trois personnages qui ont marqué la ville. Alors, le premier s'appelle René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Il est scientifique français. Il vécut de 1683 à 1757. Il s'intéressa à des domaines très variés, à la métallurgie, à la thermométrie, à la porcelaine et à l'entomologie. Eugène Fromentin fut écrivain et peintre. Il naquit le 24 octobre 1820 et mourut le 27 août 1876 à La Rochelle. Pendant un voyage en Algérie en 1852, il put, grâce à ses notes, étudier les coutumes et les paysages algériens. Ces tableaux furent par la suite extrêmement réalistes. Certains disent que ces tableaux ont contribué à l'ethnologie. Les œuvres de Fromentin ont été réalisées avec adresse. Elles sont composées étonnamment avec des couleurs vives. Michel Crépeau était un avocat et homme politique de France. Il se présenta aux élections municipales de la ville et les remporta en mars 1971. Il resta maire de La Rochelle jusqu'au 30 mars 1999, jour de sa mort. Pendant ses mandats de maire, il développa le secteur de l'environnement en organisant un service de recyclage en 1973, ou encore lorsqu'il inaugura en 1976 les bornes gratuites de vélo jaune. Il eut un impact sur l'urbanisme en limitant les constructions littorales, en agrandissant les espaces verts et en inaugurant la première zone piétonne de France en 1975. Il fit aussi beaucoup avancer la culture locale. De 1978 à 1981, il devint le président du MRG, Mouvement des Radicaux de Gauche. Il avait participé à la création de ce mouvement en 1972. Il se présenta aux élections présidentielles de 1981, où il obtient 2,21% des voix. De 1981 à 1983, il fut ministre de l'Environnement. Puis, de 1983 à 1986, ministre de l'Artisanat et du Commerce. En mars 1986, il fut garde des Sceaux et ministre de la Justice. Malheureusement, il mourut le 30 mars 1999 en pleine Assemblée nationale. La Rochelle eut par le passé une histoire chargée qui, comme nous le verrons la semaine prochaine, se reflète à travers ses musées, son patrimoine et sa programmation. À la semaine prochaine, on se retrouvera pour la suite de l'émission et sur le site internet radiograndciel.fr.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.